Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. Le couvre-feu, pour combien de temps ? Emmanuel Macron déclare qu'il faut tenir encore 4 à 6 semaines. Les écoles n'ont pas d'effet amplificateur de l'épidémie, conclusion d'une étude signée du professeur Arnaud Fontanet. Les détails dans un instant. Avant de prendre des nouvelles du pays où les enfants ne vont plus à l'école depuis 2 mois et demi, l'Allemagne, et pas de calendrier de réouverture pour l'instant. Berlin qui impose de nouvelles restrictions à la frontière avec la Moselle, colère et incompréhension, nous serons sur place. L'heure du jugement pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes, décision rendue à 13h30. Qui va peser lourd pour l'ancien président et pour le parquet national financier qui a mené les poursuites. Dans ce journal, la spectaculaire course-poursuite hier soir à Bordeaux pour attraper un homme soupçonné de tentative de meurtre. Et le rugby, Fabien Galthié sur la sellette pour la contamination de son équipe. Il est bel et bien sorti de sa bulle sanitaire. Invité d'Europe Midi, Jean-Noël Tron, le directeur général de la SACEM, qui appelle avec une vingtaine d'autres acteurs de la culture à fixer un calendrier et des modalités de réouverture.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Rentrée des classes ce matin pour les enfants et adolescents de la zone C, région parisienne, Toulouse et Montpellier, avec une étude plutôt rassurante signée du professeur Arnaud Fontanet de l'Institut Pasteur. Victor Delande, les écoles ne jouent pas le rôle d'amplificateur de l'épidémie.
Oui, on a dit tout et son contraire sur les contaminations dans les écoles depuis le début de l'épidémie. Récemment, des flambées dans les établissements scolaires ont été décrites en Israël, au Chili. Cependant, l'étude du professeur Arnaud Fontanet, publiée ce week-end dans le British Medical Journal, révèle que ces contaminations ont tendance à être limitées, en partie parce que les enfants sont 30 à 50% moins sensibles à l'infection que les adultes et ils ne présentent aucun ou des symptômes très légers lorsqu'ils sont infectés. Donc, pas question ici de nier la circulation du virus dans les écoles, elle existe, mais d'assurer qu'effectivement, dans les classes, il n'y a pas de risque de super propagation. En revanche, il y a toujours un problème dans les cantines et les transports scolaires. Il y a ici matière à amélioration, selon les auteurs de cette étude. Donc les écoles n'ont pas de rôle d'amplificateur de l'épidémie. Pour autant, si l'épidémie venait à flamber, la fermeture des lieux d'éducation ne doit pas être tabou, affirme Arnaud Fontanet. En essayant de minimiser au maximum les risques sociaux, il faudra donc privilégier l'alternance enseignement à distance pour les collèges et les lycées et retarder le plus possible la fermeture des écoles primaires parce que c'est là où il y a le plus de dommages.
Victor Delande, le couvre-feu, c'est dur, a dit tout à l'heure un jeune homme face à Emmanuel Macron qui était en visite en Seine-Saint-Denis auprès des plus jeunes pour une visite consacrée à l'égalité des chances. Je viens de perdre à l'instant le texte que j'étais en train de vous lire et qui rapportait cet échange entre Emmanuel Macron et un jeune homme. C'est dur et c'est long, lui disait le jeune homme. Et le président de la République a répondu qu'il fallait tenir encore quelques semaines, 4 à 6 semaines, a ajouté le président de la République. L'Allemagne va donc restreindre les passages à sa frontière en provenance de Moselle. En pratique, à partir de demain, toute personne du département ne pourra pénétrer sur le territoire allemand que munie d'un test négatif de moins de 48 heures. Pas de contrôle systématique toutefois, mais côté français, le gouvernement exprime de la déception et la région Grand Est de la colère. Décision rude et brutale, dit son président Jean Rottner, et qui va compliquer sérieusement la vie des 16 000 travailleurs frontaliers mosellans et de tous ceux qui traversent la Sarre, la rivière qui marque la frontière pour aller faire leurs courses. Mélina Fachin, vous nous appelez depuis Großbliederstrof, juste au-dessus de Sarreguemines.
André habite ce petit village mosellan depuis toujours et il a pris l'habitude de traverser la passerelle de l'amitié franco-allemande. Allemande, c'est son nom, tous les jours.
Ça fait plus de 50 ans que je lis mon journal allemand. C'est pas aujourd'hui qu'on va m'empêcher de le lire. Hein. Samedi, on était déjà fait des achats en Allemagne. On a fait des réserves et je ne vois pas pourquoi je devrais faire un test. C'est vraiment idiot. Le virus, il est partout.
Joachim, lui, se dépêche d'aller voir une dernière fois son médecin côté allemand. Il n'a pas réussi à faire de test ce matin en France.
Je n'ai pas réussi à joindre un laboratoire. Tout est occupé. Moi, je suis citoyen allemand, mais j'habite en France et je travaille en Allemagne. Et ça va être compliqué cette semaine parce que je peux en partie travailler en télétravail, ça c'est bien, mais je dois quand même aller de temps en temps au bureau.
Le problème, c'est que beaucoup de frontaliers travaillent dans des usines allemandes. Le télétravail n'est donc pas toujours possible. Ils espèrent que leurs entreprises organiseront elles-mêmes des tests de dépistage pour leur faciliter la vie.
Mélina Fachin, Großbliederstrof, donc conflit qui illustre le contraste ou le choc de deux stratégies. Pendant que la France tente de vivre avec le virus, l'Allemagne tente de vouloir revivre sans le virus ou avec le moins possible. En attendant, commerce et écoles restent fermés depuis la mi-décembre, Hélène Kohl.
Oui, vous savez, en Allemagne, 34% de la population est considérée comme à risque dans cette épidémie. Donc, il faut contrôler le virus tant que la vaccination n'a pas atteint un niveau satisfaisant. Or, Angela Merkel a fait ses calculs avec la présence des variants plus contagieux. Au-delà du seuil de 35 cas pour 100 000 habitants, elle pense qu'il n'est plus possible de retracer les chaînes de contamination. Donc, si on veut en finir avec les restrictions sanitaires à grande échelle, en clair, commencer d'envisager des assouplissements et des réouvertures, la seule solution, selon elle, c'est d'abord de comprimer l'incidence au prix de très gros efforts collectifs. Et ça passe, vous l'avez dit, par la fermeture des magasins non essentiels et des écoles. Depuis 2 mois et demi ici, c'est très dur, mais le pays a réussi à atteindre une incidence de 65. Alors certes, idéalement, aux yeux de la chancelière, il faudrait encore diviser ce chiffre par deux. Mais comme il est difficile d'exiger des sacrifices supplémentaires à la population, Merkel met tout en œuvre maintenant pour protéger ce premier résultat. Et on le voit très bien avec ce qui s'est passé entre la Sarre et la Moselle ce week-end. Ce sont deux territoires frontaliers. Ce matin, l'incidence en Sarre était de 74, 4 fois plus bas qu'en Moselle. Mais il y a une semaine seulement, elle était de 60. Ça veut dire qu'il y a eu un bond de 12%. Alors même qu'en Allemagne, côté allemand en Sarre, aucune règle sanitaire n'a été assouplie. Donc la conclusion des Allemands, c'est que ce virus est importé et que c'est là un levier sur lequel il faut agir pour protéger les acquis.
Hélène Kohl, en direct de Berlin pour Europe 1.com.
Europe Midi. Patrick Cohen.
À 13h30, dans moins d'une heure, la présidente de la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris commencera la lecture de son jugement et dira si Nicolas Sarkozy est reconnu ou non coupable de corruption et de trafic d'influence. C'est l'affaire dite des écoutes, pression exercée sur un haut magistrat ou bavardage entre amis, comme l'a prétendu la défense. La décision, en tout cas dans un sens ou dans un autre, sera cruciale et pour Nicolas Sarkozy et pour le parquet national financier. Gladys Laffitte, vous êtes au tribunal de Paris.
Oui, l'enjeu est d'abord de taille, évidemment, pour Nicolas Sarkozy, dont le casier judiciaire est vierge, à 2 semaines du procès Big Malion, où il comparaît pour des soupçons de financement illégal de sa campagne en 2012. Ce serait la première fois qu'un ancien président de la République serait condamné pour corruption, et ce serait aussi une première si de la prison ferme était prononcée. En cas de relax, son honneur serait lavé, lui qui s'était vivement défendu tout au long de l'audience, qualifiant d'infamie les accusations portées par le parquet national financier. L'enjeu est aussi, évidemment, fort pour le PNF. Une relaxe serait clairement un désaveu pour cette institution qui a porté jusqu'au bout l'accusation, malgré les attaques de la défense durant une audience tendue qui virait parfois à l'affrontement. Le patron du PNF, Jean-François Bonnert, était même venu ouvrir le réquisitoire. Une forme de contre-attaque, il avait récusé le reproche d'un procès politique, l'un des arguments des avocats de la défense qui avait aussi longuement pilonné la procédure. Enfin, quelle que soit la décision prononcée dans moins d'une heure maintenant, il est fort probable qu'elle ne soit pas satisfaisante pour les parties. On peut donc s'attendre à un appel de la part du PNF en cas de relax ou de la part de la défense en cas de condamnation.
Gladys Laffitte au tribunal correctionnel de Paris. Et sur le plan politique, même officiellement retiré de la vie publique, Nicolas Sarkozy joue gros dans cette décision, Louis de Raguenel.
Oui, et le premier objectif là pour Nicolas Sarkozy, qui vit très mal ses histoires judiciaires, c'est vraiment de laver son honneur, car depuis qu'il s'est éloigné du pouvoir, il s'estime victime d'une cabale hors norme où on a cherché à l'abattre. L'autre objectif, bien sûr, il est politique. Depuis 2012, date de son départ de l'Élysée, pas une semaine ne se passe sans que l'ancien président reçoive des députés, des anciens et des actuels ministres, ou encore des militants à la recherche de conseils ou de soutien. Ce qui lui permet d'ailleurs aussi de continuer de peser au sein des Républicains. D'ailleurs, ce n'est pas un détail, à 1 an de la présidentielle, les possibles candidats de la droite font très attention à traiter Nicolas Sarkozy, à l'informer de leur démarche pour au mieux essayer d'avoir un peu de soutien et dans tous les cas éviter de se le mettre à dos. Une attitude d'ailleurs qui énerve à bas bruit certains, notamment dans la jeune génération, qui considèrent qu'il est temps de passer à autre chose. Mais c'est sans doute au sein de la Macronie que Nicolas Sarkozy suscite le plus de fantasmes. Ses moindres faits et gestes sont scrutés de très près par le président actuel, car Emmanuel Macron le sait, si Nicolas Sarkozy ne se lance pas en 2022, il aura absolument besoin de ses électeurs pour espérer être réélu.
Louis de Raguenel, si Emmanuel Macron est en Seine-Saint-Denis, je vous en parlais tout à l'heure, c'est pour promouvoir le mentorat, concept nouveau en France, d'accompagnement aux bénévoles vol d'un jeune par un adulte, un mentor qui lui fait profiter de son expertise professionnelle et de ses conseils. Il y a 25 000 mentorés en France actuellement. L'objectif est de les faire passer à 100 000 à la fin de l'année. Course folle hier soir dans l'agglomération bordelaise à l'approche du couvre-feu. Barrage de gendarmerie, appui aérien, patrouille de police et plusieurs coups de feu tirés. Déploiement spectaculaire des forces de l'ordre pour stopper un homme de 60 ans soupçonné d'une tentative de meurtre qui, au volant de sa voiture, aura tout fait pour échapper à ses poursuivants, Stéphane Place.
Oui, au départ, c'est la gendarmerie de Salon-de-Provence qui donne l'alerte hier matin. Elle recherche un homme qui, dans la nuit, aurait tenté de tuer sa compagne dans les Bouches-du-Rhône. Ce sexagénaire roule désormais vers Bordeaux, sur l'autoroute A62. Ni une ni deux, un barrage est mis en place au niveau du péage de Saint-Selve. Lorsque le véhicule du fugitif arrive, il refuse de s'arrêter. Le conducteur sort une arme, tire à 4 reprises. Les militaires déployés pour l'intercepter ripostent. Ils espèrent avoir touché les pneus de la voiture. Mais celle-ci accélère. Début d'une incroyable course-poursuite. La gendarmerie fait décoller un hélicoptère. À l'approche de la métropole bordelaise, les policiers se joignent aux gendarmes. Le fugitif déboule sur la rocade. Il bifurque, prend une sortie, s'engage cette fois dans les rues plus étroites de Villeneuve-d'Ornon. D'autres coups de feu retentissent jusqu'à ce rond-point où enfin, peu après 18h, la police parvient à bloquer le fugitif. Se plaignant du dos, le sexagénaire est hospitalisé quelques heures. Sa garde à vue se poursuit aujourd'hui et on ne déplore heureusement aucun blessé parmi les policiers et les gendarmes lancés à ses trousses.
Stéphane Place, correspondant européen à Bordeaux. Opération policière au FC Barcelone ce matin avec perquisition et plusieurs arrestations, dont celle du président du Barça, Josep Maria Bartomeu, et de 3 autres membres de l'ancienne direction. Bartomeu est soupçonné d'avoir fait appel à une société de communication pour salir sur les réseaux sociaux la réputation de certains cadres et de certaines personnalités qui lui étaient hostiles. C'est ce qu'on appelle le Barça Gate, me dit notre correspondant à Barcelone, Henri de Laguéry. Ça fait plusieurs mois que ça alimente les chroniques sportives autour du Barça en Espagne. Le rugby et le 15 de France toujours à la recherche de son patient zéro, celui qui a infecté la moitié de l'équipe, censé évoluer, vous le savez, en plein tournoi des Six Nations dans une bulle sanitaire. Le sélectionneur Fabien Galthié est soupçonné, il est sur la sellette, il est maintenant acquis, confirmé qu'il a franchi la bulle pour aller voir jouer son fils, Corinne Boulou.
Ouais, alors il y a 2 éléments, Patrick, sur lesquels le rapport attendu demain ou mercredi par la ministre doit se pencher. Le patient zéro et les infractions au protocole sanitaire. La FFR semble sur la piste du rugby à 7 pour essayer de comprendre comment le 15 de France a pu devenir un cluster. Dans le même temps, nous avons appris que des joueurs, lors de leur premier match en Italie, sont sortis dans les rues de Rome et ont même eu l'occasion de savourer des gaufres. Ce qui interroge aussi, c'est la possibilité qu'a eu le sélectionneur Fabien Galthié d'aller voir en effet, son fils jouait à Paris en respectant les gestes barrières, certes, mais en quittant une bulle sanitaire à géométrie variable. Le président de la fédération, Bernard Laporte, n'y voit aucun problème. Comme il l'a dit hier soir, nos confrères de Stade 2, mais visiblement, la notion de bulle sanitaire n'est pas la même dans tous les sports quand on l'écoute.
Je crois que c'est la notion de bulle qui n'est pas bien saisie. Il y a un protocole, encore une fois, le protocole il dit les choses. Et moi, j'attends surtout le rapport pour qu'on me dise si les gens ont fauté. Et effectivement, si on n'a pas le droit d'aller manger une gaufre ou d'aller faire un footing en dehors, je ne vois pas en quoi, sincèrement, quand on va faire un footing dans un bois. Attention, on reste à Marcoussi, on est enfermé, mais ce n'est pas ça. Le protocole, oui, c'est une bulle, mais je le répète effectivement, qui n'est pas infaillible. La preuve. Et si les gens n'ont pas respecté ce qu'on nous dit de faire, alors là, effectivement, c'est mes prérogatives à moi en tant que président de prendre des mesures et de dire, puisque vous n'avez pas respecté, bien on va vous sanctionner. C'est aussi simple que ça.
Dans d'autres sports, Patrick, une bulle sanitaire, c'est simple. Hein. Les joueurs ou les joueuses n'ont pas d'autre choix qu'un trajet hôtel-stade, stade-hôtel sous peine d'être exclus. Alors oui, c'est compliqué à mettre en place et très contraignant. Ce n'était visiblement pas le cas jusqu'à présent au sein du 15 de France. Le protocole sanitaire aura peut-être évolué pour le retour des joueurs programmé à Marcoussis dimanche prochain.
Oui, c'est une affaire qui fait les bulles. Merci Corinne Boujou. Le temps, Anissa Adadi, le soleil domine pour ce début de semaine.
Oui, le temps est très agréable, hein, Patrick, cet après-midi. Le soleil brille sur presque toutes les régions. C'est dans le sud, en fait, sur le Roussillon, que le ciel est le plus nuageux à cause du vent marin qui souffle et qui apporte encore pas mal d'entrées maritimes. Elles seront tenaces sur le Roussillon cet après-midi. Du coup, vous aurez des grisailles. Et puis dans le sud-ouest, et en particulier sur les Pyrénées, le ciel alterne entre nuages et éclaircies. Voilà, c'est vraiment sur le Languedoc et sur les Pyrénées, qui fera le moins beau aujourd'hui. Le vent d'autan souffle jusqu'à 90 km/h. Les températures, elles sont un petit peu plus fraîches. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a du soleil qu'il faut se découvrir. Nous aurons seulement 10 degrés à Cherbourg, 12 à Saint-Brieuc et Lille, 14 degrés pour Paris et Saint-Étienne, 15 à Lorient, 16 degrés à Nice et à Lyon, 17 pour Biarritz, 18 à Clermont-Ferrand. Et la maximale est prévue pour Brive-la-Gaillarde avec 19 degrés. Alors un mot quand même sur ce beau temps, il va se maintenir jusqu'à jeudi. Jeudi, on a le retour de quelques petites pluies. Mais rassurez-vous, ce week-end, il va faire beau. La pluie, ça ne va pas durer longtemps.
Très bien, merci Anissa.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Jean-Noël Tron.
Bonjour.
Directeur général de la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, vous signez avec une vingtaine d'autres acteurs du secteur une lettre ouverte au président Macron pour déconfiner la culture. Qu'est-ce que ça veut dire? Une réouverture au plus vite, tout de suite?
Non, pas tout de suite, ça dépend des lieux. C'est vrai qu'il y a des enjeux de cohérence. On a du mal à comprendre que des musées ou des salles de cinéma restent fermées quand on voit des magasins de vêtements ou de bricolage parfois bondés. Et on regarde aussi ce que beaucoup de pays font. Ça fait maintenant un an de recul, puisqu'on célèbre aujourd'hui, hélas, un triste anniversaire, parce que c'était le 29 février 2020
ouais.
que les premières fermetures dans les lieux culturels ont eu lieu. Le secteur culturel aurait été au fond le premier touché par le Covid. Il va être peut-être le dernier à s'en sortir. Et puis d'un point de vue économique, ce secteur qui pèse un peu plus d'1 million d'emplois en France, c'est le deuxième secteur sans doute le plus gravement touché après le transport aérien.
Donc vous êtes prêt, et je pense que ça a commencé, à discuter deux protocoles sanitaires, deux jauges, deux publics restreints, mais ce que vous demandez, c'est d'avoir des dates, un calendrier.
Oui, absolument. Le travail avec le ministère de la Culture, il est formidable, il ne cesse pas, notamment sur les protocoles sanitaires, sur le cadre, c'est-à-dire sur les règles pratiques qui permettent de réouvrir tel ou tel type de lieu, évidemment dans le strict respect des contraintes sanitaires liées à la crise. Et cet appel qui est au président de la République, comme vous l'avez rappelé, il vise à appuyer en fait l'engagement total de la ministre de la Culture, de Roselyne Bachelot, qui se bat depuis des mois pour obtenir des possibilités de réouverture qui soient claires. Et comme vous le disiez, ce ne sera pas dans le même type de calendrier, selon le type de lieu, voire selon les parties du territoire, mais on doit être capable maintenant de dire à l'ensemble des professionnels, voilà, dans tant de semaines, voire dans certains cas dans tant de mois, vous pourrez réouvrir de manière complète. On va devoir apprendre à vivre avec le virus, comme le président de la République l'a dit lui-même. Vivre avec le virus, c'est pour les professionnels qui ont besoin parfois de plusieurs mois pour préparer des réouvertures ou des lancements, comme pour un film. Un calendrier de visibilité, c'est indispensable pour eux.
Mais pour parler concrètement, Jean-Noël Tron, dans votre communiqué, vous rappelez, ce qui est vrai, que les cinémas vont rouvrir dans quelques jours à New York. Roselyne Bachelot vous fait remarquer dans Le Parisien que ce qui a été adopté dans la grande ville américaine, c'est le principe d'une salle remplie à 25% seulement ou 50 personnes maximum dans la salle. Les exploitants ici ne l'accepteraient pas, vous êtes d'accord?
En fait, la question n'est pas là. Je pense qu'avec un an de recul et beaucoup de protocoles sanitaires, beaucoup d'études, on a maintenant une démonstration qui a été faite, qui est que quand on est assis dans une salle avec un masque et une distanciation, les risques d'être contaminés sont bien moindres que dans une bonne partie des lieux qui sont aujourd'hui en France ouverts au public. C'est pour ça qu'il y a derrière ça un enjeu qui est un enjeu de cohérence. Et le ministère de la Culture a eu l'occasion de le souligner, certainement dans le débat interministériel avec le ministère de la Santé. D'où le défi aujourd'hui qui est de donner un calendrier qui soit crédible, qui va donc être variable. New York n'est pas la seule référence, mais c'est vrai que de voir des pays de l'importance des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, qui a été le plus touché en Europe par le Covid, donner maintenant un calendrier, même si c'est en juin, complet pour le cas des Britanniques de réouverture, ça montre que l'on doit pouvoir en France faire de même.
Mais oui, effectivement, l'Angleterre, c'est tardif. Hein. C'est réouverture le 17 mai pour les salles de spectacle et de cinéma et les salles de concert le 21 juin. Vous, si on vous donne aujourd'hui un calendrier de cette nature, c'est-à-dire qui porte à la fin du printemps, quoi, hein, quasiment, ça pourrait vous satisfaire?
Non seulement ça devra nous satisfaire, mais en plus la ministre a déjà donné des éléments de calendrier, par exemple pour une partie des événements dans les concerts pour le public assis.
Oui,
donc la France, sur certains plans, a déjà pris de l'avance. Et donc, c'est vraiment une initiative d'appui de tous les efforts de Roselyne Bachelot. Et derrière ça, il y a un enjeu sanitaire national que je voudrais souligner. Chez nos voisins luxembourgeois, donc vraiment de l'autre côté de la frontière, la ministre de la Santé luxembourgeoise a souligné, lorsqu'ils ont réouvert une partie de leur lieu culturel mi-janvier, que c'était un enjeu sanitaire de son point de vue que de permettre à la population de respirer. Et quand on voit, passez-moi l'expression, mais une partie de nos compatriotes, et notamment nos jeunes, qui sont en train littéralement de craquer, il est vital que l'on puisse leur donner un espoir et qu'on puisse réouvrir tout ce qui peut l'être, bien sûr, dans le respect de toutes les consignes sanitaires. Là aussi, les professionnels ont fait des pas de géant dans la connaissance et la compréhension de ces enjeux. Ce sont, pour les professionnels du spectacle vivant, des gens qui, depuis les attentats de 2015, ont appris à gérer mieux que personne les problématiques de sécurité, les filtrages à l'entrée des salles, le respect des consignes par le public. Il faut leur faire confiance. Et c'est dans cette, c'est dans cet état d'esprit que nous avons lancé cet appel.
J'entends la façon, Jean-Noël Tron, dont vous saluez le travail de Roselyne Bachelot et du ministère de la Culture. Les artistes que nous écoutons très souvent, tous les jours, ici même, sont beaucoup moins polis et respectueux que vous et manifestent une impatience parfois véhémente à l'égard des décisions politiques. Vous l'entendez cela aussi, vous comprenez ?
Ben, non seulement je l'entends, mais je la vis tous les jours parce que la SACEM, c'est la maison des artistes auteurs, de dizaines de milliers de créateurs et de créatrices français, françaises, leurs partenaires, les éditeurs de musique, dont les revenus s'écroulent du fait de la crise. Le droit d'auteur étant souvent le dernier filet de sécurité pour permettre à des gens de continuer à pouvoir vivre de leur art. Et nous, nous les accompagnons au quotidien. Nous avons mis en place des mesures de secours pour venir au secours de nos membres. Donc, en effet, la colère monte, et c'est pour ça qu'un calendrier avec une visibilité précise, secteur par secteur, va, j'en suis certain, apporter un apaisement. Il y a aussi beaucoup de compréhension dans les milieux culturels de la gravité de la situation, mais il y a surtout cette envie de ne pas avoir le sentiment d'une exception culturelle en sens inverse, dans laquelle, et je reviens là-dessus pour prendre l'exemple des musées, le premier pays de musées dans le monde garde tous ses musées fermés. Donc, il y a des gestes qu'il faut poser. Et ces gestes, ils passent par un calendrier, une visibilité pour tous les acteurs qui sont responsables et qui comprennent, bien sûr, les contraintes qui sont celles des pouvoirs publics.
Est-ce qu'il est équitable de dire, Jean-Noël Tron, que la culture a été sacrifiée, puisque c'est le titre de votre communiqué, compte tenu de l'effort public et financier qui a été fourni depuis un an ?
Mais la tribune ne pointe pas du doigt les pouvoirs publics, au contraire. Elle souligne que dans ce pays où l'exception culturelle est une de nos fiertés, où on a beaucoup fait pour accompagner économiquement les milieux culturels, il faut maintenant s'avancer sur ces deux jambes, c'est-à-dire continuer à apporter des soutiens, comme les pouvoirs publics l'ont fait. Et là-dessus, la France est un des pays qui a été les plus ambitieux depuis le début de la crise Covid. Mais la deuxième jambe, c'est de faire confiance aux professionnels, d'écouter surtout la population, d'écouter le public qui veut pouvoir retourner dans des salles de spectacle, dans des musées, dans des salles de cinéma, qui sait ce que sont les contraintes sanitaires, qu'ils respectent. Et c'est ça, en fait, le sens de cet appel.
Merci beaucoup Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Et merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le 13h, le journal de Roman Hockey, puis La France bouge avec Elisabeth Assayag et Emmanuel Duteil. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.